Alors, je vous invite à ouvrir la Bible dans la lettre de Paul, de l'apôtre Paul aux Colossiens. Alors, Colossiens, c'est vers la fin du Nouveau Testament, dans les Bibles blanches comme ça, là, que j'utilise aussi. C'est la page 773, Colossiens. Et en fait, on va lire le chapitre 4 à partir du verset 2, donc en fait, c'est page 775. Voilà. Donc, Colossiens au chapitre 4. Verset 2 jusque verset 6. Vous aurez remarqué peut-être que je mets de côté le passage qui parle des relations un peu dans le monde du travail de l'époque en tout cas, même si en fait il y avait beaucoup de choses de cela qui se passait à l'intérieur des familles, puisque c'était le système un peu de serviteurs, esclavage entre guillemets, même s'il ne faut pas forcément avoir toutes les idées qu'on a la traite des Noirs, etc. Donc plus tardive, mais bon, c'était quand même pas une position toujours simple d'être esclave, et il y avait des responsabilités du maître. L'apôtre Paul rappelle des choses là sur ce côté-là, mais je pouvais pas aboutir à quelque chose de bien construit pour aujourd'hui, alors j'ai préféré décaler donc à partir du verset 2, chapitre 4, verset 2. Paul y parle aux chrétiens de l'église de Colosse et il leur dit ceci: persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance, priez en même temps pour nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, afin que je puisse annoncer le mystère de Christ à cause duquel je suis emprisonné, et que je le fasse connaître de la façon dont je dois en parler. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Prions très courtement. Seigneur, nous prions que tu nous conduises les uns les autres maintenant dans la réflexion autour de ta parole, non seulement pour que nos esprits, notre pensée soient marqués par la vérité que tu veux nous transmettre ce matin, mais que notre cœur aussi soit touché et que, en repartant tout à l'heure, nous soyons mis en route, rappelés, énergisés, si on peut dire, pour mettre en œuvre, Seigneur, ta parole. Je prie que tu m'aides à l'exposer fidèlement. Je prie que tu nous aides tous à l'écouter avec attention. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Alors, on est toujours content quand on a une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Ça nous réjouit, ça nous fait du bien, on est tout heureux. Et quand c'est le cas, on est d'autant plus heureux qu'on peut le partager avec quelqu'un. C'est assez terrible en fait quand on a une bonne nouvelle et on se tourne à droite à gauche et il n'y a personne avec qui on peut partager. C'est bien, on sent cette joie, mais quand on peut même partager cette bonne nouvelle, ça la multiplie, ça la rend encore plus belle et plus grande. S'il nous arrive quelque chose de super dans la journée, on n'a qu'une envie, c'est rentrer vite à la maison pour en parler avec les uns les autres qui sont là. Quand on a une bonne nouvelle, et vous avez tous fait cette expérience à différents moments de votre vie, on est tout prêt à communiquer cette bonne nouvelle. Peut-être que c'était une naissance, peut-être que c'était une réussite, un examen. On va envoyer un SMS vite, même avant d'arriver. Il faut que cette bonne nouvelle elle aille le plus vite possible pour parce qu'on se réjouit. Imaginez que vous soyez un ministre et dans un pays où la situation économique est complètement catastrophique. On a des nouvelles qui nous parviennent de différents pays dans ces situations-là. Imaginez que tout d'un coup il y ait une solution qui soit trouvée pour toute la population. Et vous allez vous empresser de communiquer cette bonne nouvelle pour apaiser les gens qui sont dans le pays, pour leur faire savoir qu'il y a un espoir, pour leur donner une perspective dans leur vie. Imaginez que vous soyez un médecin et vous avez trouvé un vaccin, un remède pour une maladie qui est en train de faire des ravages. Vous voulez pas garder ça pour vous, vous voulez le transmettre le plus vite possible, pour arrêter la contagion, pour arrêter peut-être les morts. Il ne traînerait pas à contacter tout le monde et à faire connaître une nouvelle si importante. La première motivation, quand on a une bonne nouvelle à partager, c'est la bonne nouvelle elle-même. Elle nous a tellement touchés qu'on veut la transmettre à quelqu'un. Et la deuxième motivation, peut-être, c'est de regarder aux besoins de ceux qui sont autour de nous, qui bénéficieraient d'une telle nouvelle. Et ça, ça peut aussi nous motiver. Alors, je crois que c'est ça qu'on voit un petit peu dans le passage de ce matin. Paul vient de développer dans toute l'épître ce que c'est la bonne nouvelle. Et on l'a développé donc ces dernières semaines tous ensemble en église. Et on va voir que la première surprise, peut-être, quand on est au clair avec cette bonne nouvelle, c'est que ça nous rappelle de parler à Dieu, de nous rappeler que c'est de lui que vient cette bonne nouvelle, de parler des gens qui nous côtoient à Dieu, parce que c'est lui qui est comme propriétaire de cette bonne nouvelle. Et puis Paul, il nous encourage ensuite dans un deuxième temps, puisque notre vie chrétienne se renouvelle toujours plus en Christ, de sorte que Christ devient toujours plus grand en nous, à parler de Christ à tous ceux qui nous entourent, de parler de Dieu à ceux qui nous entourent. Donc c'est en gros les deux parties que je veux développer avec vous, donc les versets 2 à 4. On veut parler de ceux qui sont autour de nous à Dieu, et puis versets 5 et 6, on veut parler de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Vous avez remarqué comme c'est surprenant, il vient de faire un grand développement sur tout l'évangile, et puis on arrive maintenant à cette idée de persévérer dans la prière, avec cette idée d'avoir un impact sur le monde autour de nous. Et la première chose qu'on aurait peut-être imaginé, c'est Paul qui dit « Allez, vite, vite, sortez de l'église, et puis toute cette semaine, vous allez parler avec les gens autour de vous. » Mais en fait, ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit « Persévérez dans la prière. » Il nous encourage à tourner les regards d'abord vers Dieu, de parler à Dieu, parce que c'est sa bonne nouvelle. C'est lui qui nous a transmis en premier cette bonne nouvelle. Et on veut toujours se renouveler nos pensées, renouveler notre perspective sur notre propre vie, sur le monde autour de nous, dans ce dialogue, dans cette discussion avec Dieu. Prier, c'est une manière de fixer ses yeux sur les réalités d'en haut pour vivre de façon à ce que Christ soit tout pour nous déjà ici-bas. Vous rappelez que c'était une des grandes exhortations du chapitre 3, verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. » Et il nous a expliqué de différentes manières de faire ça, et une de ces manières encore, c'est de prier, de persévérer dans la prière. Je ne sais pas qu'est-ce que ça déclenche dans votre esprit, prier. Quelle est votre expérience de la prière? Est-ce que vraiment on peut essayer d'expliquer un peu ça? Alors, prier, ça implique d'être en train de parler à quelqu'un. Prier, basiquement, c'est parler à Dieu. Tous ceux qui prient de façon réelle, de façon que la Bible l'explique, sont en train de manifester que Dieu est un être relationnel, qu'il est vraiment là et que quand on peut lui parler, il entend nos prières. Mais prier, si on est en relation avec Dieu, si on est en train de lui parler, il y a des choses que ça n'est pas. Ce n'est pas un bras de fer. On n'est pas en train de vouloir forcer la main de Dieu, de vouloir l'obliger à rentrer dans nos projets à nous. Parce qu'il est Dieu, il est le seul Dieu, il est bien au-dessus, bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser, bien au-delà de notre sagesse. C'est en lui que se trouvent tous les trésors de la sagesse, pas en nous. Et donc nous n'avons pas des conseils, dans un sens, à donner à Dieu. Nous avons plutôt des conseils à recevoir de Dieu. Donc, prier, ce n'est pas un bras de fer avec Dieu. Ce n'est pas prendre nos désirs pour des réalités. Ah, ce serait super que ma vie soit comme ça. Dieu, ce serait bien que tu donnes un petit coup de pouce à mes projets. Ce serait bien que dans une semaine, tu puisses avoir ce que moi, je désire. En fait, la prière, c'est plutôt mettre nos désirs ouvert devant Dieu. Donc, dans la vraie prière, c'est authentique. On n'est pas en train de nier ce qu'on est en train de vivre à l'intérieur. Mais ce n'est pas pour faire que nos désirs deviennent des réalités, mais plutôt pour que Dieu nous montre les bons désirs, qu'il nous encourage dans nos bons désirs et qu'il puisse infléchir là où nos désirs sont peut-être mal orientés pour chercher davantage sa volonté. La prière, ce n'est pas un acte magique où il y aurait des formules spéciales qu'il faudrait dire pour que, voilà, on a dit la bonne formule au bon moment, au bon endroit, et donc ça va opérer en soi-même quelque chose. Dieu va être comme pieds et poings liés à devoir faire ce qu'on a demandé puisqu'on a dit les bonnes formules. La prière, comme on l'a dit, c'est une manière de parler à Dieu, de rentrer en relation avec Dieu. Et bien que la prière ne soit pas magique, quand vous avez peut-être déjà expérimenté ça, vous êtes dans une situation et vous parlez, peut-être avec un conjoint, peut-être avec un collègue dans une situation de travail, ou peut-être avec un ami tout simplement. Et le fait même d'échanger avec cette personne, de recevoir ses encouragements, de recevoir ses conseils, de peut-être recevoir un coup de pouce où il vient physiquement vous aider, faire avec vous quelque chose pour lequel vous étiez en peine. C'est ce genre de relation-là, en fait, qu'on veut vivre dans la prière avec Dieu. La prière, ce n'est pas se rappeler, se parler à soi-même. Vous savez, il y a certaines religions qui ont des sortes de mantras, des phrases type qu'il faut répéter, pour essayer de se placer dans un état psychologique un peu autre, qui nous éloigne de la réalité du monde, et pour essayer d'atteindre un état particulier de paix. Non, la prière, c'est pas se parler à soi-même, mais c'est rentrer dans une relation véritable avec Dieu par Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas fantastique de réaliser à nouveau ce matin qu'il est possible, que Dieu désire même cela, que l'on s'approche de lui. Et s'approcher de Dieu, ça veut dire s'approcher de celui qui est le Créateur, celui qui est l'auteur de toutes choses dans notre vie, celui qui maîtrise encore toutes choses dans cet univers. Et je voudrais vous inviter à comprendre aussi ce persévérer dans la prière de l'apôtre Paul dans le cadre de tout ce qu'on a lu dans la lettre. Et en particulier, rappelez-vous au chapitre 1, les versets 15 et suivants, combien Paul nous a décrit la suprématie de Christ au-dessus de toute chose, non seulement comme chef de la création au départ, mais encore celui qui soutient toute la création aujourd'hui. Prier, c'est pas du tout parler dans le vide. Nos prières ne s'arrêtent pas au plafond, non, elles atteignent vraiment le lieu où Dieu demeure. Et on a lu ce matin une série de psaumes. David et les psalmistes qui ont parlé, ils ont exprimé leur prière à Dieu. Ils avaient la certitude d'entendre, que Dieu les entendait. « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. » On l'a chanté ce matin. Ça, c'est la prière. Alors, pourquoi est-ce que Paul doit exhorter les Colossiens à persévérer dans la prière ? Peut-être quand on a lu ça, tous les uns les autres, on s'est dit « Ouh, ah oui, c'est vrai, cette semaine, ou ce mois passé, ou ces derniers temps, c'est une lutte pour moi. » Et j'ai perdu peut-être de vue l'importance et le privilège que c'est de pouvoir prier. Cette exhortation, elle est là parce que c'est une réalité que c'est pas si simple, en réalité, dans notre vie chrétienne même, bien qu'on puisse savoir toutes ces choses, que c'est important de prier. Mais vous avez remarqué, Paul n'est pas en train de venir avec un bâton, il dit, en fait, continuez de prier. Vous priez déjà, mais persévérez dans la prière. La question, c'est de progresser, de tenir dans une vraie dépendance à Dieu. Et Paul vient avec tous ses encouragements de nouveau de l'ensemble de la lettre. Il nous dit, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. La reconnaissance pour les choses extraordinaires que Dieu a accomplies en notre faveur. Juste pour vous rappeler quelques petits éléments de cela, Paul a dit que nous sommes ressuscités avec Christ, que nous bénéficions d'une vie nouvelle. Ça ne peut pas se voir de l'extérieur, mais intérieurement, ceux qui ont mis leur foi en Jésus font cette expérience-là d'être connectés avec Dieu. Et non seulement nous sommes rendus vivants en Jésus, mais notre vie est cachée en Christ devant Dieu. Ça signifie que quand on s'approche de Dieu pour lui parler, on n'a pas besoin de craindre et on a une assurance. Notre vie est en sécurité parce que Jésus a tout accompli pour que tout ce qui pourrait faire obstacle à nos prières, à une bonne relation avec Dieu, a été ôté, effacé. Notre vie est cachée en Christ. Quand nous nous adressons à Dieu, Dieu nous entend comme des fils ou des filles bien-aimées. Alors on ne s'approche pas comme des personnes inconnues, on ne s'approche pas comme des personnes qui n'ont pas l'affection d'un Père céleste, au contraire. Nous sommes accueillis, Dieu aime que l'on s'approche de lui, que l'on lui parle. Voilà de quoi nous aider à cultiver la reconnaissance. Et la reconnaissance, alors, nous aide à voir les réponses de Dieu à nos prières. Parce que quand on prie, et on sait que Dieu écoute, on va voir que Dieu est capable aussi de répondre, de transformer les circonstances, de changer l'orientation de notre cœur. Et quand on va voir ça, alors, ça nous donne de la confiance, n'est-ce pas? Parce qu'on sait que la prière n'est pas inutile et vaine. Ça nous fortifie encore davantage dans la dépendance à Dieu et dans cette relation intime avec lui. Et si on est fortifié dans cette dépendance et dans cette relation avec lui, ça va nous pousser encore davantage à prier et à venir devant lui sans hésitation. Paul encourage ici, persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance. Et voyez, à partir de versets 3 et 4, il nous donne un peu des motivations, des raisons pour lesquelles on devrait prier. Qu'est-ce qu'on devrait prier ? Si la prière nous connecte à la volonté de Dieu, à Dieu lui-même, qu'est-ce qu'on doit demander ? Dans quel sens est-ce qu'on devrait s'exprimer ? Vous connaissez cette prière enseignée par Jésus, notre Père qui est aux cieux. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est ça qu'on désire. On désire entrer par la prière et puis après par nos forces, par nos actions, par notre vie à la gloire de Dieu. On désire entrer pour faire la volonté de Dieu aussi bien sur la terre comme elle est au ciel. Et le contexte de la lettre de nouveau de Colossiens nous rappelle quelle est la volonté de Dieu. Je vous invite à tourner juste la page peut-être, à partir du verset, au chapitre 1, pardon, et au verset 19. En effet, dit l'apôtre Paul, Dieu a voulu que toute sa plénitude, la plénitude de Dieu, habite en Christ. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même. Aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui, par son sang versé sur la croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. La volonté de Dieu, on le lit dans ces passages, c'est de réconcilier toute chose, tout ce qui est dans le ciel et ce qui est sur la terre, en faisant la paix par Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est qu'on reconnaisse que toute la plénitude de Dieu habite dans le Seigneur Jésus. Nous voulons nous souvenir alors de ce que Dieu a déjà accompli. Il a déjà mis en route sa volonté. Nous qui étions ennemis, étrangers, déconnectés de Dieu par nos pensées et par nos œuvres mauvaises, dit le verset 21. Dieu a déjà accompli quelque chose pour nous en effaçant par le sang de Jésus versé sur la croix tous les actes qui nous accusaient. On est en paix avec Dieu. La justice de Dieu est satisfaite et son amour incroyable envers des pécheurs est démontré. Et si on est en paix avec Dieu, on est réconcilié avec lui. C'est ce qu'il voulait. C'est ça sa volonté. Et on a pu, les uns les autres, qui avons mis notre foi en Jésus, expérimenter déjà cela. Et la volonté de Dieu, c'est que d'autres puissent encore bénéficier de cette réconciliation, de cette paix avec lui. Qu'ils puissent découvrir qu'ils peuvent être accueillis par Dieu comme des fils et des filles bien-aimés. On n'oublie pas que ce n'était pas le cas avant pour nous. Et on a le souci, comme Dieu, de voir d'autres réconciliés avec lui. Le but de Dieu, c'est de tout réconcilier, de remplir tout de la connaissance. Que Christ soit connu. Quand il parle de mystère au verset 3, quand il demande que les Colossiens prient afin que le mystère de Christ puisse être annoncé. Et je vous rappelle juste cette idée-là que, en fait, quand il parle de mystère, il ne parle plus de quelque chose qui est caché, mais maintenant qui est connu. Quelque chose qui était autrefois à l'état de promesse, mais maintenant qui est accompli en Jésus-Christ. Et c'est dans un sens un mystère parce que certains vont recevoir cette bonne nouvelle et vont se réjouir et mettre toute leur confiance dans ce message-là. Tandis que d'autres ne vont pas le saisir et pas le comprendre. Mais Paul prie. Paul demande qu'on prie pour qu'une porte soit ouverte afin que la parole, le message, le mystère de Christ soit annoncé. Vous avez remarqué que c'est assez paradoxal. Où est-ce que Paul se trouve quand il est en train de parler de cela? Il est en prison. Et il ne demande pas une porte ouverte pour pouvoir sortir de la prison, pour pouvoir vivre enfin de nouveau libre. Il est en prison pas parce qu'il a fait des choses mauvaises, pas parce qu'il est un criminel, pas parce qu'il a manqué de payer ses impôts ou parce qu'il a tué quelqu'un. Il est en prison parce que il a cru à l'Évangile et parce qu'il passe sa vie et que toute sa vie est façonnée par cet Évangile qu'il veut faire connaître à d'autres. Et voyez, l'objet de ses prières s'aligne avec la volonté de Dieu. Il y a parfois un enseignement pour nous aussi, je pense ici. Est-ce qu'on comprend bien quelle est la volonté suprême de Dieu? Et comment est-ce que ça façonne alors notre propre manière de prier? Bien sûr, il est bon de demander le soutien de Dieu face à la maladie. Bien sûr, il est bon de demander le soutien de Dieu, son intervention même miraculeuse dans les circonstances que l'on peut traverser, peut-être au travail ou dans tout un tas de situations que nous traversons nous-mêmes. Mais nous voulons faire cela, nous voulons expérimenter cela pour que par justement notre vie, par toutes ces expériences, nous soyons de plus en plus prêts et encouragés à partager la bonne nouvelle de Christ à ceux qui sont autour de nous. C'est la volonté de Dieu de tout réconcilier, de tout remplir de la connaissance de sa gloire et de Christ en particulier. Alors quand Paul nous a encouragé les chrétiens de Colosse à parler de ceux qui sont autour de nous à Dieu, de demander qu'il ouvre, donne des occasions pour pouvoir partager cette bonne nouvelle de différentes manières. Il va maintenant, au verset 5 et 6, la deuxième partie que je veux partager avec vous, encourager les chrétiens de Colosse à parler à ceux qui sont autour d'eux de Dieu. Parler de Dieu à ceux qui sont autour d'eux. Et c'est la même chose pour nous, la même manière, le même enseignement. Nous sommes invités à parler de Dieu à ceux qui sont autour de nous, là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous a amenés. En ce moment, pour nous qui sommes ici, ça signifie Cavaillon et sa région. Si on prie que Dieu ouvre une porte, si on prie pour les autres dans leur désir de participer à la volonté de Dieu, comme Paul est en train de demander pour lui-même, ça revient naturellement aussi à nous de nous positionner dans cette annonce de l'Évangile. C'est aussi notre appel de parler de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Ça fait partie de devenir des hommes, des femmes qui se renouvellent de plus en plus à l'image de Christ, comme Paul l'a enseigné dans le contexte juste précédent, chapitre 3. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus-Christ ? Toute sa vie, n'est-ce pas ? Il n'attirait pas l'attention sur lui, il n'attirait pas l'attention sur la synagogue où il allait, mais il attirait l'attention sur le Père. Et il disait tout ce que le Père lui avait demandé de dire, et il faisait tout ce que le Père lui avait confié de faire. Et son point de précis, si vous rappelez peut-être le début de l'évangile de Marc, c'était d'annoncer la bonne nouvelle plus loin. Le royaume de Dieu s'est approché. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle, car le temps est proche. Et quand il avait passé toute cette journée à guérir des tas de malades et de personnes qui avaient des besoins très divers, il est allé se reposer pendant la nuit. On l'a cherché au matin. C'est finalement Pierre qui le trouve et dit « Maître, il y a encore des tas de gens à guérir et pour lesquels il faut que tu interviennes dans ce village. » Et puis, qu'est-ce que répond Jésus ? Il dit « Allons dans les autres villages, car je suis sorti pour annoncer un message, pour annoncer la bonne nouvelle. » Dieu se soucie des situations concrètes qu'on peut traverser, mais il y a une priorité qui reste devant ses yeux tout le temps et qui devrait être aussi notre priorité, de faire en sorte que ceux qui sont ennemis, étrangers, puissent entendre le message de la réconciliation. Alors, Paul exhorte à se conduire avec sagesse envers les gens de l'extérieur et à racheter le temps. De la même manière que Jésus avait mis sa priorité, il aurait pu passer des jours et des jours encore à rester dans ce village-là en particulier et à faire des tas de miracles. De la même manière, il a géré son temps. Et c'était assez fantastique de voir 3 ans de ministère public, comment il a été toujours à l'essentiel, comment il a gardé les bonnes priorités. Il a manifesté aussi lui-même qu'est-ce que ça signifie de se conduire avec sagesse envers les gens de l'extérieur. Il y avait toutes sortes de personnes qui sont venues autour de Jésus, n'est-ce pas ? Et il a dû adopter différentes manières d'être en relation avec elles. Et il y a un encouragement ici pour nous-mêmes aussi à réfléchir comment être en relation avec ceux du dehors. Ceux du dehors, ceux qui sont en dehors de la famille de Dieu, ceux qui sont en dehors de la foi, ceux qui sont encore en train de vivre sous la juste condamnation de Dieu à cause des fautes, à cause des péchés. Ceux qui ont besoin d'entendre la bonne nouvelle d'une réconciliation possible par la croix de Jésus. Et dans ces gens, il y a des gens plutôt agréables, et vous les connaissez, votre voisin, votre collègue, vous pouvez passer des jours et des jours, vous pouvez faire des tas de choses super intéressantes avec ces personnes. Comment est-ce qu'on va réfléchir avec sagesse, à utiliser bien notre temps quand l'on passe avec ces personnes-là, dans le cadre de la volonté de Dieu qui façonne, qui oriente cette exhortation. Conduisez-vous avec sagesse, dans le but de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est de tout réconcilier avec lui-même. Nous devons réfléchir à la manière de vivre dans ce monde, en ayant le souci de parler de l'Évangile à ceux que nous côtoyons ou nous rencontrons. Quelles sont les occasions qu'on peut saisir ? Est-ce qu'on est en train de prier pour avoir le courage de les saisir quand elles se présentent ? Car c'est sûr et certain, puisque c'est la volonté de Dieu, il va nous donner des tas et des tas d'occasions de pouvoir partager la bonne nouvelle. Comment être en relation avec ceux qui sont peut-être un peu moins plaisants parfois autour de nous ? Et de nouveau, il faut qu'on regarde à Jésus. Il n'a pas eu peur des pécheurs. Quand Lévi a été appelé par Jésus, la première chose qu'il a fait, et ça, c'était parce que certainement il avait été tellement touché que le maître puisse l'appeler lui, un pécheur. Il a organisé un grand repas, il a invité tous ses amis, tous ses collègues à la maison. Et Il les a conduits pour qu'ils puissent entendre Jésus lui-même. Même les pharisiens, même les gens de mauvaise vie, Jésus, n'avait pas peur d'aller au-devant d'eux. Pourquoi ? Parce qu'il y avait quelque chose qui le motivait plus. Il savait que la volonté de Dieu, c'est de tout réconcilier. Peu importe, aussi loin qu'on puisse penser être de Dieu, si la situation semble impossible à vue humaine, si c'est la volonté de Dieu de tout réconcilier avec lui, n'est-ce pas ? Il est capable de le faire. Il va tout mettre en œuvre. Il n'y a pas de personne plus haute que lui qui pourrait l'empêcher de réconcilier les pécheurs, même les plus notoires, avec lui-même. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile qui doit capter notre pensée, qui doit capter notre énergie. Conduisez-vous avec sagesse envers les gens de l'extérieur et rachetez le temps. Peut-être que ça nous invite aussi à nous remémorer nous-mêmes régulièrement par où nous sommes passés. Qu'est-ce qui fait notre vie aujourd'hui ? Où est-ce qu'on serait sans cet Évangile ? Et c'est peut-être une motivation supplémentaire. Vous savez, si je dis à Lucas, sors tout de suite de cette pièce. Il va me regarder comme il est en train de le faire, avec des yeux un peu interrogateurs, mais pourquoi ? Si je dis, mais sors parce que il y a des personnes qui ont besoin d'aide dehors, à cause du vent, je sais pas, on peut imaginer une situation, et là peut-être sa bonne volonté, elle va être un peu plus relevée, il va peut-être plus envisager de sortir. Et si je dis, mais sors, parce que maman est en danger dehors, elle a besoin de toi. Voilà. Il s'élève, parce qu'en plus de ça, il a cet amour qui le porte vers l'extérieur. Et plus nous, on va réaliser quel est l'amour que Dieu a eu envers nous, qui ne méritions pas sa miséricorde, qui ne méritions pas sa bonté, qui ne méritions pas de pouvoir nous approcher de lui en nous-mêmes. Plus notre amour pour ceux du dehors va augmenter, n'est-ce pas ? Conduisez-vous avec sagesse. Ça fait partie de cette sagesse-là, de cultiver en nous ce souvenir de l'action de Dieu dans notre cœur, régulièrement. Et racheter le temps, c'est aussi un bon temps passé chaque jour à lire la parole, à méditer sur le fait que nous étions loin de Dieu et il nous a ramenés près de lui. Enfin, verset 6, que votre parole soit toujours pleine de grâce et assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. La Bible du Semeur traduit une parole savoureuse, une parole pleine de saveur. On a tous fait l'expérience de manger un plat de pâtes, peut-être, où on a oublié de mettre le sel dans l'eau au moment où il fallait les cuire. On s'en est pas rendu compte, c'est seulement à la première bouchée qu'on dit « Oh !» Ce bon plat de pâtes là qui nous faisait déjà saliver d'avance, mais il est tout fade maintenant. Et c'est quand même moins bon, les pâtes non salées. Nous avons de quoi mettre une vraie saveur dans nos discussions, des discussions de tous les jours. Vous avez remarqué ce « toujours » verset 6, « Que votre parole soit toujours pleine de grâce ». Et assaisonné de sel. Le Seigneur nous donne parfois des longs moments de discussion avec des amis, dans lesquels on a plein d'occasions de pouvoir mettre cette saveur-là de l'Évangile. Parfois c'est très court. Et Dieu nous demande de réfléchir à toute situation. Et plus on est convaincu de cet Évangile, plus ça va être naturel pour nous de pouvoir en tout temps ramener ou plutôt donner ce goût-là à notre parole. Et c'est là, encore une dernière pensée que je voulais partager avec vous. Vous avez remarqué que même s'il faut se conduire avec sagesse envers les gens de l'extérieur, Paul termine en mettant l'accent sur la parole. Que votre parole soit pleine de saveur. Que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est sûr que avoir un bon discours et une vie qui manifeste l'inverse, ça, c'est inutile et c'est vain. On veut de la pertinence, on veut de la cohérence entre notre discours et notre manière de vivre. Normalement, c'est le cas. Si on a véritablement intégré ce que Dieu a fait pour nous, ça va rejaillir dans notre conduite. On devrait plus se soucier de nos pensées toujours, parce que c'est de là que naît notre volonté et nos actions. Mais à l'inverse, dire « Ok, moi je me conduis bien et je laisse les autres deviner. » C'est peut-être ça un peu le mystère de Christ, tu vois. Ils se disent « Mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre chez cette personne ?» Mais surtout, on ne leur explique jamais. Ce n'est pas ça que l'apôtre Paul a envie. Il dit « Conduisez-vous bien, mais que votre parole soit toujours pleine de grâce, assaisonnée de sel. Vous sachiez comment répondre. » Dieu a envoyé des héros, H-E-R-A-U-L-T, des proclamateurs de la bonne nouvelle. Jésus lui-même a beaucoup passé de temps à enseigner les gens, à leur expliquer le règne de Dieu, à leur expliquer qui est Dieu. Il a passé du temps à démontrer que tout ce qu'il faisait, c'était parce que ça attestait qu'il était bien le Messie promis. Il a ouvert les Écritures avec ces personnes. Et il leur a montré dans la Bible où l'évangile était annoncé et comment c'était important pour eux de le saisir. Dieu n'envoie pas des mimes dans le monde. Nous ne sommes pas des acteurs simplement. Nous sommes des êtres qui avons reçu un message précieux et nous sommes envoyés pour parler, pour proclamer cette bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, ça se partage. Et on est invité à partager avec Dieu dans un sens. La situation de ceux qui sont autour de nous. On est appelé à persévérer dans la prière, à demander à Dieu des portes ouvertes. Même si on se sent un peu, pas très dans les meilleures circonstances ou pas très utile pour ça, comme emprisonné, on pourrait dire, pour comparer avec l'apôtre Paul, Dieu est capable de faire que sa parole continue à être enseignée. On veut aligner nos pensées avec la volonté de Dieu qui est de tout réconcilier avec lui-même. Et si on a fait cela, on va être encouragé alors. Ça va être naturel, ça va venir de vouloir parler de Dieu à ceux qui sont autour de nous. Pas juste avec notre conduite, comme si elle serait assez parlante, mais avec nos paroles. Une parole pleine de grâce et pleine de saveur. Que Dieu nous aide, que Dieu nous encourage tous à voir comment nous pouvons montrer que Christ est suprême et suffisant aussi dans cet aspect-là de notre ministère chrétien. Je vous invite à prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, merci pour la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous étions perdus, égarés, sans espoir, loin de toi, à cause de nos propres désirs opposés aux tiens, avec cette volonté de vivre sans tenir compte de toi, sans tenir compte de ton autorité, de ta parole, ce que la Bible appelle le péché. Mais nous te louons, nous te bénissons que tu ne nous as pas laissés dans cette situation. Tu as envoyé ton propre Fils, le Seigneur Jésus, qui est mort sur la croix. Par son sang, il a lavé nos péchés. C'est lui qui a pris le châtiment qui devait tomber sur nous pour que nous puissions être réconciliés dans la paix avec toi. Ta justice est satisfaite, non pas parce qu'on a contrebalancé nos fautes par tout un tas de bons efforts, mais parce que quelqu'un a payé la dette à notre place. Quelle grâce, quel cadeau magnifique. Seigneur, que ce message puisse toujours plus pénétrer dans nos cœurs, puisse continuer de changer, de façonner et notre vie et nos paroles, pour que tous ceux qui sont autour de nous puissent entendre de notre bouche ce message glorieux et bon. Nous t'en prions, viens nous aider, viens nous donner des occasions, ouvre des portes aux uns et aux autres. Nous te le demandons au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.